Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour et bienvenue dans Accent d'Europe. C'est un double scrutin déterminant pour l'avenir de la Moldavie qui se déroule ce week-end. Une élection présidentielle et un référendum sur la perspective d'une adhésion à l'Union européenne. Dans ce petit pays situé entre la Roumanie et l'Ukraine, qui comprend une bande de territoire autonome contrôlée par la Russie, la division entre pro-européens et pro-russes s'est accentuée depuis le début de la guerre en Ukraine. L'Union européenne, premier partenaire commercial, a multiplié les aides et les mains tendues, tandis que la Russie tente de ramener cet ancien pays soviétique dans sa sphère d'influence, notamment par l'achat de voix et les campagnes de désinformation. Lassés par la précarité économique et l'instabilité politique, de nombreux Moldaves estiment que leur avenir se joue dimanche dans les urnes. Reportage Marine Leduc.
Le soleil est au rendez-vous en cette mi-octobre à Chișinău, la capitale moldave. C'est la fête de la ville et plusieurs milliers de personnes se rassemblent sur la place principale, profitent des concerts et déambulent entre les stands de bijoux et d'artisanat. Sur un petit muret, une femme vend des chiens en peluche, des souvenirs et aussi des drapeaux européens qui partent selon elle comme des petits pains.
Oui, les gens ici aiment l'Europe, ils veulent entrer dans l'Europe.
Dans quelques jours, les Moldaves vont décider si, oui ou non, ils soutiennent l'adhésion de leur pays à l'Union européenne. Cette femme, qui préfère rester anonyme, est gagaouze, une minorité turcique et chrétienne orthodoxe, en général russophone et favorable au Kremlin. Mais pour elle, l'espace européen représente des opportunités économiques.
Là-bas, il y a de bons salaires. Si on avait des salaires comme ça en Moldavie, ce serait bien. Et si c'était moins cher dans les magasins? On veut entrer dans l'Union européenne pour que les salaires augmentent. Si les salaires restent maigres et les prix élevés, à quoi ça servirait de les rejoindre? Ici, on ne fait que survivre, on ne peut rien payer, on vit à crédit en permanence.
Un peu plus loin, dans un parc de la capitale, Andrei Bolocan joue avec ses enfants. Après 10 ans passés à Montréal, au Canada, le comédien est revenu en 2021 avec sa famille en Moldavie. Depuis l'indépendance en 1991, le pays a perdu plus d'un quart de sa population partie émigrée ailleurs, en Europe de l'Ouest comme en Russie. Mais certains, comme Andrei, reviennent au pays. Pour être proche de ses racines, oui, mais aussi avec l'espoir d'un nouveau futur, notamment depuis l'élection de la présidente Maia Sandu en 2020, à l'époque, figure de proue de la lutte contre la corruption.
Ça nous aidait à prendre notre décision avec un espoir à venir européen pour Moldavie. On a eu beaucoup de barrières dans ce chemin et moi je pense qu'il ne faut pas renoncer. Dans une société occidentale, en France, au Canada, tu peux trouver des choses déjà préparées. Le confort social est déjà, tu peux déjà vivre là-bas. Mais ici, il faut encore travailler pour ça. Il faut encore changer de mentalité, de travailler avec les gens.
Il y a donc beaucoup à faire, notamment sensibiliser face à la désinformation russe qui s'est amplifiée depuis le début de la guerre en Ukraine voisine. Andrei et son épouse, Nata Albot, sont tous les deux des personnalités de la télévision moldave qui ont investi les réseaux sociaux pour faire face aux fausses informations et à l'apathie politique. Et aussi désamorcer les craintes qui restent nombreuses face à l'Union européenne.
Il y a des peurs qui ont à l'origine des valeurs religieuses. Il y a des gens qui ont peur qu'on va avoir vraiment beaucoup de propagande de la homosexualité. Il y a des gens qui ont peur qu'ils vont perdre leur terrain, qui sont leur propriété privée, qui est protégée par la loi. On a des politiciens, on a des influenceurs payés par Kremlin qui vont promouvoir tout ça, qui vont dire qu'avec l'Europe, on ne va pas avoir l'identité moldave, on ne va pas avoir notre langue. Mais c'est vraiment, c'est opposé à toutes les choses qui se passent en Europe. Mais si on commence à parler à ces gens, si on commence à déconstruire leur peur, je pense qu'on peut trouver un dialogue.
Le dialogue est d'autant plus difficile que la guerre a ravivé les divisions. Mais pour Andrei, il est temps que son petit pays choisisse clairement son partenaire.
Notre ancien président a dit souvent qu'il faut réhabiliter nos relations avec nos partenaires stratégiques et nos amis de la Russie. Comment tu peux leur appeler des amis quand on a des manipulations et des spéculations pour les ressources énergétiques? On a la région transnistrienne qui est occupée et manipulée par les Russes. Et moi, je pense que c'est le temps de débarrasser de tout ça, d'être vraiment indépendant, de penser pour nous.
Dans un pays polarisé entre pro-russes, pro-européens, on retrouve des divisions jusqu'au sein des familles. Dans son appartement, situé dans un quartier ouvrier, Eugenia sert le thé et joue avec sa fille d'un an et demi. La femme de 35 ans est professeure de langue et artiste. Son mari, lui, travaille au Royaume-Uni dans le bâtiment avec la perspective d'acheter une maison. Eugenia a grandi dans une famille russophone. Sa sœur vit à Moscou et soutient la guerre menée par Vladimir Poutine. Sa mère, elle, rejette un futur dans l'espace européen. La jeune femme souhaite rester en Moldavie, mais les élections pourraient changer ses projets de vie.
On verra si le oui sera majoritaire pour entrer dans l'Union européenne et surtout qui sera le ou la présidente de la Moldavie. Tout cela influencera notre décision et le pays où nous vivrons. Moi, j'ai un passeport bulgare et mon mari un passeport roumain. Donc, nous pouvons aller vivre dans ces pays. Beaucoup de personnes de mon entourage me disent que si Maia Sandu n'est pas élue, ils partiront. Ce sont surtout des jeunes. On en a assez de toutes ces incertitudes, de ce chaos et de ne pas avoir de perspective d'évolution.
C'est un rendez-vous électoral qui est donc décisif pour beaucoup. Selon les derniers sondages, la présidente Maia Sandu est donnée favorite et plus de 52% des Moldaves soutiendraient l'adhésion à l'Union européenne.
En France, le budget 2025 est sur la table des parlementaires et l'hôpital public s'inquiète. Le gouvernement lui promet certes une hausse de budget, alors que le contexte est partout à l'économie, mais il lui demande d'utiliser une partie de ce budget pour contribuer à financer la retraite de son personnel. Au détriment des soins, s'indignent les organisations du secteur, et alors que l'hôpital manque de soignants et que la prise en charge des malades se dégrade. Une des conséquences de cette dégradation, c'est l'augmentation des agressions verbales et physiques dont le personnel est victime, 30 000 par an. Et en Italie également, les agressions contre les soignants sont de plus en plus fréquentes. Dans certains hôpitaux de la péninsule, on a même déployé des unités de police. Mais les soignants mobilisés réclament aussi des moyens. Olivier Bonnel.
Mi-septembre, 500 médecins et infirmiers ont manifesté leur colère devant l'hôpital de Foggia dans les Pouilles après une énième agression. Une quarantaine de personnes ont pris d'assaut le service de chirurgie thoracique de l'établissement après le décès d'une patiente, molestant des médecins et rouant de coups des infirmières. Chirurgien en poste à Naples, Pierino Di Silverio est le secrétaire général d'Anao Assomed, l'un des principaux syndicats de la profession.
Le rapport de confiance entre le patient et le médecin s'est rompu. Aujourd'hui, pour le citoyen, s'il y a une erreur, la première chose à laquelle il pense, c'est que c'est la faute du médecin. S'il attend trop longtemps, il pense que le médecin ne veut pas travailler.
L'an passé, pas moins de 16 000 agressions ont eu lieu en Italie contre le personnel médical, selon un observatoire mis en place au sein du ministère de la Santé. Les femmes sont d'ailleurs souvent les premières victimes de cette violence, une situation qui inquiète Elena, en stage d'infirmière au CHU de Foggia.
Il y a des services dans lesquels je n'ai même pas envie de travailler à cause des contacts qu'on peut avoir avec certains patients et certains de leurs proches.
Le gouvernement réfléchit à plusieurs mesures pour enrayer ces violences, comme filtrer les visites dans les hôpitaux, augmenter la vidéosurveillance ou encore y déployer des unités de police. Mais les réponses sécuritaires ne sont pas la solution pour la majorité du personnel soignant, pour qui la dégradation des services publics en matière de santé est la première urgence à traiter. Gaetano Servidio est le directeur du département de chirurgie de l'hôpital de Foggia.
Le modèle de santé publique en Italie s'est entièrement concentré sur l'hôpital. Aujourd'hui, quand vous avez un patient âgé, que ses enfants vivent loin, ils vous demandent de le garder à l'hôpital car ils ne savent pas où le prendre en charge. C'est une pression énorme.
Un nouveau décret gouvernemental adopté début octobre prévoit jusqu'à 5 ans de prison et 10 000 euros d'amende pour toute personne prise en flagrant délit de violence contre un médecin.
Au Royaume-Uni, le service de santé publique, le NHS, n'échappe pas à la crise et la santé mentale est l'une des branches qui pâtit le plus du manque de personnel et de moyens. Au point que les associations jouent désormais un rôle essentiel dans la prise en charge des malades, de l'urgence au traitement à long terme. Reportage Marie Billon.
Sam était en Thaïlande en décembre 2004 quand le tsunami a frappé. Pendant plusieurs jours, il a cherché parmi les cadavres les amis avec lesquels il était en vacances et a aidé les blessés. Ses amis étaient sains et saufs, Sam aussi, mais de retour en Angleterre, il a eu beaucoup de mal à se remettre de cette expérience. Il a pourtant fallu plus de 5 ans pour qu'il soit diagnostiqué avec du stress post-traumatique.
Mon expérience du NHS en matière de santé mentale se résume essentiellement à des diagnostics erronés, à des malentendus et à un manque d'empathie. Les médecins n'ont pas vraiment eu le temps de m'écouter. Ils n'ont pas pris la peine de me poser de questions. Ils ne m'ont tout simplement pas pris au sérieux. Envoyer quelqu'un dans un centre spécialisé dans les troubles de stress post-traumatique, ça coûte cher, comparé à la prescription de médicaments, par exemple. Peut-être qu'ils essayaient de tenir compte des contraintes économiques.
C'est un problème que beaucoup de patients rencontrent. Pour obtenir une aide dans la durée, les Britanniques doivent souvent se résoudre à aller dans le privé ou bien à attendre de longs mois. Une fois le diagnostic posé, le NHS a dit à Sam qu'il devait attendre au minimum 5 à 6 mois. Quant à la prise en charge d'urgence, elle est souvent assurée par des associations.
Malheureusement, j'ai fini plusieurs fois à l'hôpital parce que j'en étais arrivé à un point où j'étais suicidaire. Je me suis tourné vers les associations, j'ai parlé aux Samaritains. Ça m'a sauvé à l'époque, mais ce n'était pas pour m'orienter vers un traitement.
L'aide dont Sam avait besoin, il l'a trouvée en voyant par hasard dans un journal télévisé une professeure d'Oxford qui donnait une interview sur le stress post-traumatique. Il l'a contactée, elle l'a diagnostiquée et l'a prise en charge. Marjorie Wallace est la fondatrice de l'association SANE. Elle explique que l'histoire de Sam est loin d'être unique.
Aujourd'hui, environ 60% des appels que nous recevons concernent des idées ou des tentatives de suicide. Lorsque les gens appellent, ils nous disent qu'ils ont essayé de contacter des lignes d'urgence du service public, mais que ça ne répond pas. Ou parfois, ce sont des gens qui ne sont pas formés qui répondent et suggèrent d'aller faire un jogging ou de prendre une tasse de thé, ce qui rabaisse quelqu'un qui pense à mettre fin à ses jours.
Chaque mois, l'association reçoit plus de 1600 appels de personnes en détresse. Ces volontaires, tous formés au premier secours en santé mentale, passent 500 à 600 heures à aider les appelants.
A lot of community groups trying to scrape away for funds to run.
Les associations se battent pour trouver des fonds, pour gérer ce qui devrait être du ressort du NHS. Nous avons affaire à des pathologies potentiellement mortelles. Souvent, si la prise en charge n'est pas assez rapide, les malades peuvent souffrir toute leur vie. Les deux tiers des maladies mentales se déclarent en effet à la fin de l'adolescence. Nous sommes aussi très préoccupés par le fait que pour la première fois depuis plusieurs décennies, le taux de suicide augmente. Il y a quelque chose qui cloche.
In the suicide rate. Something is missing.
Selon Marjorie Wallace, le NHS ne prend toujours pas la psychiatrie autant au sérieux que les maladies physiques. En 2023, il manquait presque 20% de personnel dans le secteur. C'est pour aider à la fois les professionnels, les proches aidants, mais surtout les personnes en souffrance que l'association Grassroots Suicide Prevention a créé l'application de smartphone Stay Alive, Restez en vie, en 2014. L'application propose des exercices d'ancrage, de respiration pour s'apaiser en cas de crise. Il y a aussi une Lifebox, une boîte de vie où on peut placer photos, vidéos, tout ce qui peut aider à ne pas mettre sa vie en danger. Il y a aussi des conseils pour un plan bien-être de plus long terme et bien sûr des contacts d'associations et des services d'urgence du NHS. Alex Harvey est l'un des développeurs de l'application Stay Alive.
Le suicide et l'appel à l'aide peuvent être très stigmatisés. C'est important d'avoir une ressource dans l'intimité et à domicile. L'application ne fait pas tout, mais elle peut être un tremplin dans un moment où on n'arrive pas à se tourner vers les soignants, ni même vers un proche. 76% des utilisateurs en détresse disent que ça les a aidés à éviter la tentative de suicide. 80% des aidants indiquent que Stay Alive leur a permis de garder la personne en souffrance en sécurité.
Chercher de l'aide en dehors du NHS est devenu un réflexe pour beaucoup de Britanniques, même parmi les plus malades. Car dans le service public, l'hospitalisation se fait là où un lit est disponible. Ce peut être à des centaines de kilomètres du cercle de soutien du malade, pourtant si important en cas de crise.
Et on retrouve Franceline Beretti qui a fait pour nous le tour de la presse européenne. Pour commencer, direction la Belgique où l'on votait pour les municipales et les provinciales le week-end dernier.
Un vote alors qu'au niveau fédéral, il n'y a toujours pas de gouvernement. Les élections ont eu lieu il y a 4 mois, les négociations se poursuivent entre la droite et les nationalistes flamands. Pendant que cet exécutif de droite se dessine, Paul Magnette, le président des socialistes francophones, était bien content de prendre sa revanche dimanche.
Depuis le 10 juin, on nous dit « la Wallonie a basculé, le paysage politique a changé, vous allez voir ce que vous allez voir, l'élection communale va confirmer le glissement à droite ». Nous avons pris la région, nous allons prendre le fédéral et nous allons maintenant prendre les villes et les communes. Eh bien, chers amis, chers camarades, ça ne s'est pas produit. Ce soir, on peut dire que la vague bleue s'est fracassée sur le mur rouge.
C'est très lyrique cette image, mais c'est faux. C'est totalement faux puisque le PS conserve bien quelques bastions wallons, Charleroi, Liège, quelques communes bruxelloises aussi, mais il n'obtient aucune province. À la RTBF, la radio publique belge, on veut bien être gentil avec le PS, mais les chiffres sont quand même difficiles à tordre. Et puis, il y a la chef d'écolo, Marie Lecoq.
Là où tout le monde nous annonçait grand, grand perdant, nous pouvons ce soir vous confirmer un rebond positif par rapport au résultat du 9 juin.
Elle laisse les journalistes perplexes.
Là, c'est tout de même étonnant. Hein, Philippe, on ne voit pas très bien quel peut être le motif de réjouissance pour Écolo.
Oui, en effet, même si cela négocie encore un peu, ça et là, Écolo semble bel et bien avoir perdu tous ses bourgmestres.
La claque de cette élection, c'est surtout l'arrivée de l'extrême droite flamande au pouvoir pour la première fois en plus de 80 ans. Dans la commune de Ninove, le Vlaams-Belang a réuni la majorité des voix à lui tout seul contre tous les autres partis, pourtant unis pour le faire perdre. La politique de cordon sanitaire, comme on dit en Belgique, tout sauf l'extrême droite, s'est fracassée sur l'incapacité des partis traditionnels à la renouveler.
Également dans la presse, en Grande-Bretagne, Franceline, les femmes victimes de Mohamed Al-Fayed sont de plus en plus nombreuses à se manifester. Les plaintes affluent depuis la diffusion d'une enquête de la BBC, c'était le 19 septembre dernier.
Enquête intitulée « Al-Fayed, un prédateur chez Harrods ». Un document accablant pour le millionnaire égyptien mort l'année dernière. Les journalistes de la BBC ont recueilli des dizaines de témoignages de femmes l'accusant de viol ou d'agression sexuelle. Margot avait 19 ans quand elle a été embauchée comme gouvernante dans son manoir.
Un matin, avant 5 heures, j'ai été réveillée par l'ouverture de la porte de ma chambre. Al-Fayed est rentré et a refermé la porte derrière lui. Il s'est assis sur mon lit en m'écrasant délibérément contre le mur, puis il a été sous les draps avec moi. Ses mains étaient partout. Il m'a violée.
Au moment de la diffusion de cette enquête, 37 femmes avaient déjà porté plainte. Elles sont maintenant plus de 200. Le grand magasin Harrods a annoncé qu'il négociait avec elle un accord à l'amiable et a présenté ses excuses parce qu'Al-Fayed a été couvert par toute l'équipe de direction, par tout son entourage pendant plusieurs dizaines d'années.
Et dans la presse allemande aussi, il est question de viol, Franceline.
Oui, parce que les médias allemands suivent de près le procès de Gisèle Pellicot à Avignon, cette femme droguée par son mari et violée par lui et des dizaines d'inconnus recrutés sur le net. En Allemagne comme en France, les journaux se demandent comment une telle histoire est possible. Ils tentent des interviews, des analyses. Cette semaine, par exemple, le Spiegel interroge une historienne qui remonte jusqu'à l'Antiquité romaine pour expliquer que depuis, en droit ou dans les esprits, le corps d'une femme appartient à son mari. Ce qui est troublant, c'est qu'on a l'impression de lire la même chose partout, quel que soit le pays. La même condamnation du patriarcat, des dénonciations identiques de la masculinité, les mêmes appels d'hommes à d'autres hommes pour qu'ils prennent conscience de leur violence. On a beau lire, on a l'impression de ne jamais être éclairé, la sensation d'avoir des clés de lecture remâchées qui nous laissent toujours autant démunis face aux récits glaçants qui sortent de ce procès.
Franceline Beretti, merci. À la réalisation d'Accent d'Europe, Olivier Roux. Le podcast de l'émission, c'est sur RFI Pure Radio. Restez à l'écoute, l'info continue.